Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec un auteur qui est aussi un ami, on peut le dire, un des scénaristes à la fois les plus prolifiques et les plus variés de la bande dessinée française. Je crois qu'on peut te définir comme ça, Laurent Frédéric. On s'était déjà rencontrés pour la radio pour la sortie de La Bombe. C'était quasiment une autre vie.
Eh bien, bonjour Stéphane. Oui, bah, ravi de te retrouver. Oh, ami, je confirme. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Donc, on est pour un nouvel album, beaucoup plus petit que La Bombe, totalement différent. C'est un album publié par les éditions Glénat. Le titre est La Pérouse 64. Donc, avant de rentrer dans le détail de l'histoire et de tous les enjeux, il semblerait que tu aies un tropisme pour cette région, pour la mer, pour les îles et pour les grandes découvertes. Les gens qui s'intéressent à la BD se rappellent d'avoir reçu ou acheté un énorme album sur l'histoire de l'Australie qui a marqué tous ceux qui l'ont lu d'ailleurs, et je pense que celui qui l'a écrit aussi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es autant passionné par cette région et ses aventures ?
Effectivement, l'Australie, le Pacifique Sud me fascine, sans doute parce que c'est loin, ça c'est sûr que ça fait partie de cet intérêt. C'est, quand je pense qu'au 21e siècle, il faut encore 24 heures d'avion pratiquement pour aller en Australie, tu vois, ça ne cesse de me fasciner. Et puis, bah, c'est parce que c'est un pays jeune et une région qu'on a découverte que récemment. Tu as peut-être vu que j'ai même sorti un autre livre sur l'Australie au printemps dernier, où là, je raconte l'histoire du premier marin, c'est un Anglais, qui a fait le tour de l'Australie, la circumnavigation, et a de ce fait prouvé que l'Australie était une île. Parce qu'avant, on ne savait pas. On connaissait les deux côtes, mais on pensait qu'au milieu, c'était tellement éloigné qu'il devait y avoir de l'océan, quoi, tu vois, que ce n'était pas possible que ce soit un pays entier. Bon, et bien tout ça, c'est arrivé en 1802. Donc, tu vois, au 19e siècle, on ne sait toujours pas que l'Australie, au début du 19e siècle, l'Australie est une île. Donc voilà, ça ne cesse de me fasciner. Et puis ben là, par rapport à l'album dont tu veux qu'on parle aujourd'hui, ben, il est vrai que j'ai encore raccordé une histoire, parce qu'en plus, il y a un lien avec la France par rapport à cette fameuse et mythique expédition La Pérouse.
Alors, qui était La Pérouse ?
Alors, La Pérouse, écoute, c'est un marin français qui s'était engagé très jeune dans la marine royale, comme on disait. Donc là, on est bien à la fin du 18e siècle. Hein. Là, on est dans les années qui vont précéder la Révolution, mais on est à cette époque-là. C'est un jeune officier qui gravit les échelons, qui vient d'Albi, qui est en conflit avec son père, soit dit en passant, notamment par rapport à sa future femme. Mais bon, il gravit les échelons de la marine royale. Et lorsque tu sais que l'expédition de James Cook, dans les années 1770, fait parler d'elle, en fait, James Cook, il a fait 3 voyages hein, autour du monde. Et il a mal terminé, tout le monde le sait, dans l'actuel Hawaï, où il s'est fait massacrer par des autochtones. Mais le fait est qu'évidemment, ces expéditions de Cook ont eu un énorme retentissement. Et quand on est la France à cette époque-là, bah, on se doit en quelque sorte de dire bah, « nous aussi, on peut faire la même chose ». Donc, Louis XVI et son administration lancent une grande expédition. Alors, tu sais, c'est le genre d'expédition qui a des visées géographiques, cartographiques, ethnographiques, sociologiques. On part à la découverte du monde, on veut découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles îles. On peut, si éventuellement, on peut installer des comptoirs ou voir par rapport au commerce s'il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est le siècle des Lumières où on veut découvrir le monde. Donc la France lance sa grande expédition et elle est commandée par le jeune officier Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse, de son vrai nom. Et donc, il y a 2 navires, l'Astrolabe et la Boussole, qui partent de Brest en 1785 et qui sont censés revenir environ 4 ans plus tard après avoir fait le tour du monde. Sauf qu'en 1788, à la fin de l'année 1788, on n'a toujours aucune nouvelle de cette expédition. Et on en vient à conclure, hélas, que les 2 navires ont dû s'échouer, ont dû faire naufrage et que sans doute, on ne retrouvera peut-être plus jamais Monsieur La Pérouse et ses navires. Et pourtant, bah, si, on va tout faire pour essayer de les retrouver et en savoir plus, pour savoir ce qui s'est passé.
Alors que comment on découvre que en fait, La Pérouse a coulé donc, près de l'île de Vanikoro Parce qu'à l'époque, comme tu dis, hein, il faut 3 ans pour faire le tour du monde, au moins, si on n'a pas trop de soucis. À quel moment on va découvrir que les navires ont péri à cet endroit-là? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est déjà au 18e, au 19e? On a déjà des pistes.
Alors, on sait qu'ils sont partis de Sydney, l'actuel Sydney, qui à l'époque, on l'appelle Botany Bay. Donc, c'est là que les Anglais sont arrivés en janvier 1788 et ont fondé la colonie de Sydney, et donc ont peut-être fondé l'Australie moderne. Donc, c'est ce que je racontais dans mon livre Terra Australis. Et on sait que la Pérouse était arrivée au même moment, mais lui, c'était juste pour faire escale. Bon, il y est resté trois mois, et on sait qu'il est reparti de Sydney en mai 1788. Et on n'a pas de nouvelles dans les semaines qui suivent. Donc, il n'y avait pas 36 chemins possibles. On savait qu'il allait se diriger sans doute vers la Nouvelle-Calédonie et continuer encore sa route vers le nord du Pacifique Sud, si j'ose dire. Bon. Donc, les recherches, si elles doivent se concentrer quelque part, ça ne peut être que là, parce qu'il n'y a pas d'eau, on ne l'a pas vu après. Bon. Donc, on envoie, tu sais, dès 1791, il y a une mission, la mission d'Entrecasteaux, qui part à la recherche de la Pérouse. Et effectivement, on sait bien il faut chercher aux alentours des îles Santa Cruz, parce que Vanikoro, cette île, fait partie des îles Santa Cruz. Mais ça ne sera pas avant 1827 et 28 qu'on va retrouver des vrais restes du bateau L'Astrolabe. Donc ça y est, on sait à ce moment-là, donc dans la première moitié du 19e siècle, qu'il y a vraisemblablement eu un échouage au large de Vanikoro. C'est le fameux marin Peter Dillon, tu en as peut-être entendu parler, c'est un marin franco-irlandais qui retrouve des preuves de l'échouage de l'Astrolabe, hein, des deux navires. En revanche, jusqu'en 1964, et donc tu vois, ça va nous mener à notre livre, on n'a aucune preuve du lieu où s'est sans doute échoué le navire La Boussole. Et c'est important de retrouver La Boussole. Pourquoi ? Parce que c'est sur La Boussole que se trouvait la Pérouse. Il était, lui, physiquement, le commandant, le mythique commandant français, il était présent sur La Boussole et pas sur l'Astrolabe. Donc, on veut retrouver La Boussole.
Donc, ce qui est intéressant, et ça, là aussi, ça fait le lien avec la bande dessinée et avec un nœud scénaristique important, c'est une sorte de chasse au trésor. Il y a une folie qui s'installe peu à peu. La Pérouse, depuis son naufrage donc au XVIIIe siècle, c'est un mythe. C'est le mythe, on ne sait pas ce qu'il est devenu vraiment, on ne sait pas s'il a été mangé par des cannibales, s'il est au fond de la mer, s'il s'est installé avec une vaïnée sous les cocotiers. Il y a une sorte de recherche frénétique et ça devient une recherche mythique. Donc il y a eu James Cook, plus tard il y aura les Rébus et le Terror avec le passage du Nord. Il y a quelques bateaux comme ça qui sont devenus des quêtes.
Oui, c'est ça.
Ça c'est intéressant.
Ben oui, ben là, c'est lié à plusieurs facteurs. Ben, d'une part, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il y a un vrai mystère, ça c'est sûr. Et puis, ben, comme je te l'avais dit, c'était un peu une mission officielle royale, donc il y avait un côté très prestigieux. Et puis, comme c'est lointain, c'est vrai qu'il y a une certaine dimension légendaire qui a été créée. Et puis, parce que pendant tout au long du 19e siècle, il y a eu des petites avancées, mais le mystère est toujours demeuré, en quelque sorte. Alors, j'enchaîne tout de suite pour te dire qu'en 1962, il y a un plongeur néo-zélandais, un civil, hein, c'est un néo-zélandais qui fait du business un petit peu avec une compagnie australienne qui est installée sur l'île de Vanikoro pour exploiter du bois. Et c'est un plongeur sous-marin amateur, mais enfin déjà d'un bon niveau. Et il trouve des objets qui, selon lui, ne peuvent faire partie que de la boussole et pas de l'astrolabe parce que ce n'est pas au même endroit. Que là où on avait trouvé les anciens objets de l'astrolabe. Donc, il en fait mention aux autorités françaises et effectivement, en mars 1964, une expédition est un petit peu montée à la va-vite depuis la Nouvelle-Calédonie pour aller sur ce nouveau gisement, car là, effectivement, ce plongeur néo-zélandais, manifestement, apporte des informations de tout premier ordre. Donc, c'est notre livre, La Pérouse 64, il se base sur une histoire vraie. L'expédition Brossard, pour tout te dire, dirigée donc par le futur amiral Brossard, pour aller enfin essayer de trouver la preuve que la boussole s'est bien échouée à cet endroit de Vanikoro. Parce que ce n'est pas tout à fait au même endroit que l'astrolabe, effectivement. C'est quelques centaines de mètres un petit peu plus à l'est, exactement. Donc, voilà, c'est une mission authentique de la marine française qui a eu lieu. Et comme Vanikoro, à l'époque, dans les manuels de la marine, est considéré comme un territoire à éviter absolument, car mortel pour les Occidentaux, entre guillemets, incroyable, hein. Et ben donc, effectivement, il y a un parfum d'aventure qui a eu lieu. Et nous, on l'a un petit peu augmenté, parce qu'effectivement, on a rajouté des dangers, des péripéties, on a changé un petit peu les personnages, avec notre héros qui est un nageur de combat, qui est dépêché sur place pour aller plonger justement, et là-bas, lui, à cause de la météo pourrie, à cause du relief de Vanikoro hostile, à cause de la barrière de corail, des vagues, tout ça fait qu'effectivement, c'est une vraie aventure.
Oui, parce qu'on va pas parler de la vraie expédition, parce que ils ont trouvé des preuves, tout s'est bien passé, entre guillemets. Vous allez partir de là pour tricoter une aventure qui peut sans arrêt tomber dans le drame, dans le drame absolu, hein, la disparition de l'équipage, du bateau, des mutineries, des quasi-assassinats. Enfin, c'est assez fascinant. Et il y a donc ce personnage de nageur de combat. L'histoire commence. C'est un terroriste d'État, hein, parce qu'il fait sauter un navire. On a connu des épisodes comme ça en Australie dans les années 80. Oui. Mais ce personnage qui est un peu brut de décoffrage, on va lui demander de partir sur une mission très étonnante pour lui. C'est-à-dire qu'il va devenir archéologue, historien. Là, il va faire dans la dentelle et plus dans l'explosif.
Voilà, donc nous mettons en scène ce lieutenant de vaisseau qu'on appelle donc capitaine dans la marine, qui est un nageur de combat, qui exécute pour le compte de l'État des missions dites HOMO, H-O-M-O. Là, c'est une appellation officielle, hein, pour ces missions qui viennent directement de l'Élysée et qui consistent à éliminer certaines personnes ennemies de la France. Tout le monde sait que tous les présidents l'ont fait. François Hollande l'a même révélé publiquement, hein, il y a quelques années. Et donc, François Guérin, c'est son nom qu'on lui a donné, est affecté à aller vite fait à l'autre bout du monde, à Vanikoro, pour participer aux missions de plongée pour retrouver l'épave de la boussole, le navire amiral de la Pérouse. Donc oui, nous mettons en scène un personnage qui n'est pas ravi par cette mission, parce que quand on est une sorte de militaire pur jus, impliqué dans des opérations un peu d'État, secret d'État, aller jouer les plongeurs amateurs ou presque pour retrouver des poteries ou des assiettes à l'autre bout du monde, c'est vrai que ça ne l'enchante pas. Mais il va se trouver face à un monde qu'il ne soupçonnait pas, qui est le monde effectivement de la marine historique, si j'ose dire, où 176 ans après, puisque c'est là l'intérêt d'avoir fait notre petite introduction sur la vraie histoire de l'expédition La Pérouse, c'est qu'il a fallu quand même attendre 176 ans pour qu'on aille percer le mystère de la boussole. Et donc, ça veut bien dire que cette histoire, elle est chevillée au corps de la marine française. Je veux dire, c'est pas faux ce qu'on dit, hein. Tous les marins français connaissent le mythe de La Pérouse. Ouais. Et donc, il va se retrouver pris dans une sorte d'obsession avec des officiers autour de lui qui sont obsédé par cette histoire et qui veulent absolument la résoudre. Et il découvre un autre monde qui est un peu assimilable à un monde de guerre, puisque le territoire est hostile, le territoire est dangereux, le territoire est mortel. Et en plus, c'est une quête qui obsède, qui rend enfiévré les personnes. Donc, il se demande, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on n'est pas aussi fou que La Pérouse, finalement, qui lui aussi a été au bout de sa mission, pratiquement en mode on n'y arrivera pas, mais on le fait, quoi.
Oui, parce qu'il y a le capitaine, c'est le futur amiral. Bon, c'est pas le vrai futur amiral, mais c'est votre futur amiral, qui est un homme assez extrêmement attachant, qui commande l'expédition. Lui, la mission d'aller jusqu'au bout, et donc il doit absolument trouver une preuve, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il se passe autour de lui. Et lui, il devient presque fou dans cette affaire.
Voilà, on en a fait un personnage littéralement obsédé par la mission La Pérouse, on va dire ça comme ça. Alors, c'est un capitaine de frégate, hein, donc effectivement, c'est un grand commandant du patrouilleur qui est amené sur place. Donc, il lui faut de la poigne, il a une sacrée personnalité, mais effectivement, il est un petit peu obsédé par cette histoire. Et notre nageur de combat le considère d'une manière pas très sympathique et pas très positive, puisque manifestement ça va trop loin, quoi. On prend trop de risques dans la jungle de Vanikoro pour essayer vraiment de retrouver des traces, donc on en fait effectivement une opposition entre les deux, mais c'est quand même aussi un vrai meneur d'hommes qui n'a pas peur d'aller au bout. Et dans l'absolu, il y a bien une mission à remplir, donc il va la remplir. La question, c'est à quel prix? Bon, ben voilà, tout le sel de ce roman graphique. Alors, je me permets de dire que je suis en collaboration avec une co-autrice, Marie-Agnès Leroux. Tu me poseras peut-être des questions sur mes co-auteurs. Et puis que le livre est formidablement dessiné par l'Italien Vincenzo Bizzarri. Et donc, effectivement, il y a une atmosphère là de plongée, de fond sous-marin et de jungle dans Vanikoro. Hein, je pense que tu as été sensible aussi.
On va parler des auteurs, évidemment, parce que Marie-Agnès Leroux, moi, je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est, d'où elle vient. Vincenzo Bizzarri, j'avais repéré ses albums sur la Révolution française, qui était formidablement déjà bien dessiné, aussi avec un travail de la couleur qu'il fait, qui, je trouve, fait beaucoup pour le charme de l'album, parce qu'à chaque fois, il plante en quelques couleurs des impressions, de la météo, le danger, le stress de la plongée sous-marine. L'autre chose, moi, qui m'a intéressé, je m'étais intéressé au naufrage du Terror et de l'Erebus, donc passage du Grand Nord, ils ont péri sous la banquise, on les a jamais retrouvés, sauf récemment. Et déjà, à l'époque, les chercheurs qui ont découvert les épaves avaient dû s'intéresser aux habitants, donc c'est pas des Esquimaux, mais c'est des habitants de ces territoires, qui avaient gardé à la fois des petits objets du naufrage, et qui, à travers les récits un peu mythiques que se racontent les parents au coin du feu avec leurs enfants, ces naufrages ont laissé des traces dans l'histoire de ces populations. Et vous évoquez ça et vous en parlez. Ça, c'est une chose qu'on sait très peu, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Alors, en 1964, il faut savoir qu'à Vanikoro, il y a à peu près 200 indigènes, autochtones, locaux, appelons-les toutes ces façons, qui vivent sur place. Bon, c'est pas beaucoup. Et je dirais même qu'on sait que la population est en déclin et qu'effectivement, il y a une grande pauvreté et que, bon, ça vit difficilement globalement de pêche. Le fait est qu'une compagnie australienne est donc implantée, mais elle aussi est un petit peu en déliquescence. Et il y a des bungalows qui ont été construits quelques années auparavant au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit bien que c'est un petit peu à l'abandon. Donc c'est un territoire qui est déjà hostile et est un petit peu effectivement en déliquescence. Mais le fait est que c'est vrai, une tradition orale, et ça, on en a souvent entendu parler pour différents territoires du Pacifique, mais c'est vrai, une tradition orale a été transmise de père en fils, depuis donc 1788, et le plus vieil habitant de l'île sait qu'il y a eu des étrangers qui ont donc été recueillis en quelque sorte sur Vanikoro à la suite d'une grande tempête et d'un grand naufrage qui a concerné deux navires. Donc là aussi, même si ce n'est pas écrit, même s'il n'y a pas d'autres signes que cette parole orale, dans ces territoires-là, ça compte et c'est authentique, quoi. Donc effectivement, ce qu'on sait maintenant, c'est que l'Astrolabe, le premier navire, donc, s'est coupé en deux, mais qu'il y a des survivants qui ont pu atteindre la côte et qui ont trouvé refuge dans Vanikoro. Voilà. Ceux-là, selon les témoignages, sont repartis avec une sorte de navire de fortune construit au bout de quelques mois. Mais ça, on n'en a jamais retrouvé trace dans tout le Pacifique durant les décennies qui ont suivi. Donc ça, on est obligé de dire, peut-être, on ne le saura sans doute jamais. Ceux qui sont restés sur place ou qui étaient déjà morts, dont les corps se sont échoués, on va dire, sur les rivages, ont été enterrés avec des objets qui aussi ont dérivé. On a trouvé des pièces de monnaie, on a trouvé des petits objets, et les autochtones de Vanikoro les ont enterrés sous un grand rocher noir. Voilà, c'était ça la seule description. Donc, dans l'expédition de 1964, et ça fait partie évidemment d'un grand chapitre de notre livre, eh ben, il y a cette mission pour aller retrouver le rocher noir, pour en quelque sorte retrouver vraiment les restes des ex-survivants de l'expédition La Pérouse. Et je fais une petite parenthèse pour te dire tout de suite que, manifestement, la boussole, quand elle s'est coupée en deux, le navire, il n'y a eu aucun survivant. Là, il y a vraiment eu un naufrage absolu terrible, donc, le fameux monsieur Lapérouse est mort corps et bien en sombrant avec son navire. Là maintenant, c'est quasi certain.
Et est-ce qu'ils ont retrouvé le rocher noir? Parce que évidemment, oui. Dans la BD, ils le retrouvent. Il est trop gros, ils ne peuvent pas l'enlever pour voir ce qu'il y a dessous. Mais est-ce qu'ils ont retrouvé ce rocher? Est-ce qu'ils l'ont fouillé?
Oui, tout à fait. on l'a retrouvé. Donc là, on s'est bien basé sur l'authentique. C'est vrai, l'amiral, futur amiral Brossard, avec ses hommes, a bien retrouvé le rocher noir. Il y avait toujours des ossements et des objets encore visibles, des boutons d'habits. Donc non, c'est évident que c'était là des Européens qui s'étaient échoués. Donc ça pouvait être que l'échouage de la Pérouse, hein, il n'y en avait pas d'autres. Et donc, ça a permis un petit moment de recueillement assez émouvant. Nous, on a densifié un petit peu ça avec une expédition dans la jungle un petit peu haute en couleur. Mais quand tu lis le livre de l'amiral Brossard, tu comprends qu'ils n'ont pas rigolé non plus, que oui, les dangers étaient vraiment là.
Oui, vous en avez fait un trajet dans la jungle, hein, une sorte d'apocalypse Now.
Exactement. C'est ça.
C'est très, très prenant. On lit ça et on est vraiment
Si je me permets de t'interrompre deux secondes, cette référence que tu as cinématographique, écoute, j'ose dire, c'était ce qu'on avait à l'esprit. On a vraiment voulu faire un film. Et je le dis d'autant plus fortement que je ne peux pas dire que quand je fais des BD, je suis scénariste de bande dessinée, je fais de la bande dessinée. Et la référence au cinéma, il y a des fois, elle n'a pas lieu d'être. C'est évident, c'est un livre qui se lit de manière littéraire, si j'ose dire. Mais là, je crois vraiment qu'on est dans un esprit cinéma. C'est ce qu'on a voulu faire. Les références à Apocalypse Now sont exactes. Moi, j'avais un petit peu aussi Fitzcarraldo de Werner Herzog en tête, avec ces transports d'objets complètement fous. Et puis, impossible de ne pas penser à quelques films de Pierre Schoendoerfer, ce côté un peu anciennement militaire, les années 60, des missions un petit peu difficiles, où on sonde un peu l'âme humaine, et puis on est dans un environnement de marine, un peu hostile. Donc, c'est vrai qu'on voulait vraiment qu'on se dise, allez, on est dimanche après-midi, il ne fait pas beau dehors, je m'installe avec l'apéro 64 et je vais regarder un film, en fait.
Alors, il faut parler d'un autre personnage, parce qu'il y a plein de personnages, mais il y en a trois importants. Hein. Le nageur, le capitaine, et évidemment, il y a forcément une femme dans les histoires d'aventure et surtout dans les histoires de jungle. Là, ce n'est pas du tout une donzelle en péril, c'est une femme assez intéressante, c'est une femme forte. Est-ce que c'était une femme qui était déjà dans l'expédition 64? Ça serait étonnant.
Non. Oui, c'est ça. Là, c'est une vraie création. Et la responsabilité, si j'ose dire, de Marie-Agnès Leroux, ma co-scénariste, dans la création du personnage de Viviane est très importante. Mais très importante, je parlais de responsabilité, mais évidemment, elle avait raison. Oui, écoute, ce genre de femme journaliste, hein, c'est ça, à la base, elle est journaliste, reporter avec son appareil photo, un peu, donc forcément aventurière, un petit peu aussi dans l'âme. Et c'est une excellente création pour avoir un autre point de vue, pour avoir un point de vue féminin, pour parler de l'émancipation des femmes, pour parler de la transmission des informations. Et effectivement, au niveau scénaristique, ça apporte un contrepoint plus que bienvenu dans un univers qui est un petit peu masculin, c'est évident.
Oui, puis un univers clos en plus, parce qu'on est sur un bateau, donc la surface est petite.
Tout à fait. Mais tu sais qu'il y a eu, à vrai dire, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, il y a eu deux expéditions concernant les recherches autour de Vanikoro qui ont été importantes. Il y a eu donc celle de 64 sur laquelle on se base, mais 5 ans auparavant, il y en a une, donc 59, et c'est Harun Taziev qui l'a commandé. Harun Taziev, donc le célèbre vulcanologue, comme on disait de mon temps, maintenant je crois qu'on dit volcanologue, enfin bon, moi je continue de dire vulcanologue. Il était en mission, je ne sais plus si en Nouvelle-Calédonie ou en Nouvelles-Hébrides, et donc déjà il y avait eu des informations en 59 qui avaient circulé comme quoi on avait vraiment retrouvé le lieu de naufrage des deux bateaux. Et donc il y avait eu une première mission qui s'était organisée un petit peu à la va-vite, et c'est Taziev donc qui l'avait commandé. Mais déjà, elle avait été médiatisée. Au retour, il y avait eu une présentation des objets, il y a des photos qui existent, des articles, on voit bien Harun Taziev qui montre des objets qu'ils avaient repêchés. Donc, la médiatisation a toujours fait partie du jeu, et c'est évident que pour la marine française, c'était important d'avoir des preuves, d'avoir un accompagnement un petit peu journalistique. Donc, la seule chose qu'on a mise vraiment en avant, c'est que la journaliste soit sur place. Alors qu'en fait, après, ça a été des articles a posteriori, en quelque sorte. Mais bon, ça densifie bien le récit.
Alors, parlons des auteurs maintenant. Donc, toi, on te connaît maintenant depuis pas mal de temps, on te connaît bien. Qui est Marie-Agnès Leroux, donc, qui signe, je crois, son premier scénario?
Tout à fait. Alors, Marie-Agnès, c'est une éditrice, figure-toi. Et c'est une éditrice actuellement, comme on appelle, indépendante, hein, freelance. Bon, et elle est mon éditrice sur un autre projet, pour tout te dire, qui verra le jour l'an prochain, en 2024, chez Futuropolis. Bon, voilà, je te livre un petit scoop, mais nous en reparlerons le moment venu, si tu veux bien.
Absolument, absolument.
Voilà. Et donc, Marie-Agnès avait été éditrice d'un livre consacré à La Pérouse, signé par Bernard Jiménez, qui avait été publié aussi chez Glénat il y a quelques années, qui faisait le point, en quelque sorte, tu vois, sur à la fois qu'est-ce qu'elle avait été cette expédition et quelles avaient été toutes les recherches entreprises. Parce que depuis, sache qu'il y a une association qui s'est créée, qui s'appelle l'association Salomon, et qui continue d'aller explorer autour de Vanikoro dans les années... je crois que la dernière expédition, elle a eu lieu en 2017. Donc, tu vois, ça continue. Hein, on retrouve toujours des objets. Bon, fin de la parenthèse. Et Marie-Agnès avait édité ce livre. Et ça l'avait passionnée. Elle est vraiment tombée un petit peu sous le charme de ce mythe et de cette histoire. Et c'est elle qui m'a persuadé qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de La Pérouse avec cette idée que, à l'époque, La Pérouse a pris tous les risques pour continuer sa mission, là où peut-être la raison commandait de rentrer en France, tu vois. À partir du moment où il s'arrête à Sydney, moi, dans Terra Australis, je l'avais mis en scène, ça, cette scène, où un Anglais vient à la rencontre de La Pérouse. Et les Anglais sont frappés par l'état un petit peu de décrépitude physique qu'a La Pérouse. Là, il y a des témoignages, hein. Il n'a plus de dents, les cheveux hirsutes. Il a pris 20 ans d'un coup, depuis la dernière fois qu'on l'avait vu au départ de l'Europe. Et c'est manifestement une mission qui est en train d'aller vers un destin funeste, quoi. Peut-être qu'il aurait fallu rentrer en France. Il avait déjà fait le tour du monde, La Pérouse. Bon, non, il a voulu continuer d'explorer le Pacifique. Et peut-être que c'était une des raisons, voire une folie, que de faire ça. Et c'est vrai que les recherches sur La Pérouse, au bout de quasiment deux siècles, est-ce que ce n'est pas encore aussi quelque chose de déraisonnable? Est-ce qu'il ne faut pas en finir avec cette histoire? C'est bon, on sait où ils ont sombré, on va peut-être pas en rester là, quoi. Eh bien non, ça continue. Et en 64, dans cet environnement hostile, on a continué peut-être un petit peu trop de manière déraisonnable, hein, avec notamment l'épisode de la jungle. Bon. Donc, Marie-Agnès et moi qui suis tombé sur le livre de Brossard à ce moment-là, je lui ai proposé peut-être qu'effectivement on aille vraiment sur cette époque moderne et qu'on se concentre sur cette avancée majeure qui a eu lieu en 64. Et donc, évidemment, comme elle m'avait un petit peu mis l'hameçon, en quelque sorte, je lui ai dit « Allez, on l'écrit à deux ». Donc, on s'est lancé tous les deux en co-écriture, on s'est réparti les séquences. C'est évident qu'elle a peut-être un petit peu plus écrit les scènes avec Viviane, tu l'auras deviné, hein, elle a un petit peu mis en scène le personnage féminin. Et puis moi, je me suis consacré peut-être sur plus de scènes avec le commandant. Bon, mais le fait est que, tu vois, on a parlé d'une même voix au final. Donc voilà, c'est une belle association d'une éditrice passée de l'autre côté de la barrière.
Oui, puis c'est une écriture très, très fluide. Moi, comme je t'avais dit quand on s'est parlé de la semaine dernière, j'ai commencé, je suis tombé dedans et je l'ai lu d'une traite parce que même si évidemment on connaît la fin.
Oui, pourquoi qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas comment ça va se terminer par rapport à si on a trouvé une preuve, quelle va être la preuve, tu vois, hein, c'est ça.
Oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui. Et oui, c'est vrai. Oui. Ça fait le petit truc qui conduit l'histoire. Et oui. Mais bon, on sait que ça va bien se finir, a priori. Oui. Et malgré tout, on se dit, mais et si jamais il y avait quelque chose qui se passait qu'on n'avait pas attendu. Et il faut aussi parler du dessin donc de Vincenzo Bizzarri. Moi, c'est un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est à la fois un dessinateur par moments très réaliste et par moments très expressionniste. Et il arrive à jouer comme ça avec vos séquences où on est sur le bateau. Là, c'est des militaires en uniforme et c'est réaliste. Et dès qu'il y a un peu de jungle, un peu de La Pérouse, un peu de mer, un peu d'indigène, là, tout de suite, on passe dans des scènes vraiment très puissantes et très expressionnistes. On y est, quoi.
Oui, Vincenzo, on l'a rencontré parce que, puisque c'est un album édité par Glénat, il venait de sortir, donc là, quand le projet a vraiment démarré, il y a deux ans, un biopic consacré à Jean Gabin.
Oui.
pas si tu l'avais vu. Moi, tu sais que j'ai fait un biopic dans la même collection consacrée à Patrick Devers. Et donc, le Jean Gabin, bah, évidemment, ça m'a intéressé. Et j'avais bien aimé aussi le dessin de Vincenzo. Et il était libre. Donc, assez vite, les planètes se sont alignées pour que ce soit lui. Mais quand il nous a fait les planches d'essai, puisque les dessinateurs font toujours des planches d'essai, à la fois pour eux-mêmes se mettre dans le bain ou pour montrer à l'éditeur à quoi ça pourrait ressembler, bah, on a tous été surpris parce que Vincenzo avait changé son style par rapport à Jean Gabin. Donc, il a éprouvé le besoin de s'adapter, de proposer une autre palette en quelque sorte. Et on en a déjà parlé. Moi, je dis, on a déjà parlé avec lui, donc il me dit oui, tu peux dire ça. C'est un style à la Christophe Blin. Là qu'il a adopté. Il n'y a pas de honte, et puis au contraire, ouais. C'est même une sacrée référence. Hein. L'auteur, je le rappelle, du Monde sans fin ou d'autres bandes dessinées, Quai d'Orsay, pour ne pas le citer, évidemment, plus que prestigieuse de Christophe Blin. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais nous, on a tous trouvé qu'il y avait un trait à la Blin, un petit peu, dans l'apéro 64. Et évidemment,
notamment dans les visuels.
Ouais, tout à fait. Et c'est donc très, très fluide, ça se lit très facilement. Et ça me fait plaisir ce que tu m'as dit tout à l'heure, parce que, écoute, t'es pas le premier à me dire que bah, ceux qui l'ont commencé, ils ont été d'un coup jusqu'au bout. Quoi. ça fait plaisir.
Et Laurent Frédéric, on arrive au terme de notre entretien, parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment donné pour reparler de ton album plus tard. Je fais une petite digression. C'est que les éditions Glénat ont publié il y a quelques années un livre de Boris Beuzelin, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Dillon, l'énigme de la Pérouse. Et bon, là, c'est historique, hein, donc on est à l'époque de la Pérouse. Et je trouve qu'une fois qu'on a fini le vôtre, il faut lire le sien, parce que ça se complète vraiment très très bien, et c'est aussi un excellent dessinateur. Donc
Tout à fait. Non, ce livre, tu penses bien qu'il a fait partie de nos lectures qu'on a toutes reprises pour bien se redocumenter. Il n'y avait pas que le livre de Brossard qu'il fallait lire. Tu seras amusé à notre scoop de savoir que la boucle va être bouclée, puisque je prépare un polar, en l'occurrence, avec Boris Beuzelin, qui sortira l'année prochaine aux éditions Robinson. Voilà, tu sais tout.
Très bien. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, moi.
Oui, oui.
Donc, je te remercie pour cette petite demi-heure passée avec moi pour parler de La Pérouse de l'année 64 et de ce mythe et de l'album assez génial et envoûtant, on peut dire ça.
Merci.
Il y a une tête de mort sur la couverture. qui met l'ambiance. Donc, je rappelle tout ça. La Pérouse 64, c'est publié par les éditions Glénat. Ça fait quand même 158 pages, pardon, et c'est au prix de 22,50. Donc, il faut absolument se précipiter dans toutes les bonnes librairies pour découvrir La Pérouse et ton nouvel album. Je te remercie beaucoup.
Merci Stéphane, c'était un plaisir comme d'habitude, et porte-toi bien, portez-vous bien tous.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.